Shaltir, pour quelle raison as-tu sollicité ce rassemblement de dernière minute ?
Votre Excellence, des individus ont pénétré le domaine de Nazarick. Ils ont dépassé les catacombes dont je suis gardienne. J'aurais pu les arrêter, mais je ne pouvais prendre cette initiative sans vous consulter.
Tu as du culot, Shaltir, de te présenter en ces lieux après avoir fait preuve d'une telle incompétence.
Être gardienne des trois premiers niveaux de Nazarick est un peu plus complexe que simplement faire la poussière dans la salle du trône, n'est-ce pas, Albedo ?
Et ça recommence.
Fasse t'anguille !
Tu t'es vu, sale guenon ?
Il suffit. Nous avons récemment recueilli beaucoup d'informations sur le club des chatons. Il faut croire que nous avons attiré l'attention de nos ennemis. Cette menace doit être prise au sérieux. Il est impératif d'organiser notre défense.
Seigneur, je mets mon bras à votre service. Je suis le guerrier le plus puissant et le plus à même de faire face à nos ennemis. Ma force et mon courage ne sont plus à démontrer. Je saurai vous faire honneur.
Je crains, mon cher Coquitus, que cela ne soit impossible.
Et pourquoi donc, Démiurge ?
N'es-tu pas seul à ton étage ?
C'est le cas. Où veux-tu en venir ?
Eh bien, puisque nos ennemis ont déjà traversé les trois premiers niveaux, que le tien n'est pas loin derrière, et que tu es ici en ce moment même, il est certain qu'ils l'ont déjà traversé.
Malédiction ! Quel déshonneur pour moi ! Vaincu, sans même avoir pu me battre.
Pauvre Coquitus, un gros tas de muscles sans cervelle.
Maître adoré, si vous le permettez, j'aimerais m'en charger.
N'aggrave pas ton cas, Shaltir. Tu as déjà eu ta chance. Et regarde où cela nous a menés.
En aucun cas, je ne me permettrai de prendre une telle initiative sans l'accord du maître. Il va de soi que si j'avais fait obstacle à ces intrus, ce serait déjà réglé.
Pardonnez mon intervention, Seigneur Helicus, mais mes créatures me signalent que nos ennemis ont franchi la rivière de lave.
Cet étage était sous ta responsabilité, Demiurge. Et tes créatures ont échoué.
Pour la sécurité de Nazarick, je ne peux me permettre de les laisser faire un pas de plus. Soit, je vais m'en charger. Incantation. Kra, Sestou, Vekor, Nerkul, Ertrar, Egola.
Quelle est cette incantation? Je ne reconnais pas ce sort.
Je pensais que ce n'était qu'une légende. C'est un sort de niveau 11.
Décidément, la puissance des créateurs est sans égale.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 9. Overlord.
Bienvenue dans ce 9e épisode de notre émission Le samouraï et la soubrette, le podcast où deux colocs parlent d'animation japonaise, voire plus si affinité. Nous allons aborder dans cet épisode la série Overlord, en tout cas ses trois premières saisons, car à l'heure où nous enregistrons cet épisode, la saison 4 vient seulement d'être annoncée et non diffusée, et donc bien entendu nous ne l'avons pas encore visionnée. Overlord, c'est un animé qui est sorti en 2015 pour sa première saison, et en 2018 pour ses saisons 2 et 3, que l'on doit toutes au studio Madhouse. C'est une adaptation d'une série de light novel qui a été écrite par Kugane Maruyama. Je vais laisser le micro à mon fidèle sidekick Xavier, qui va donc vous présenter le synopsis.
Donc le type, il se promène en permanence avec des talons de 12 cm et en robe de soubrette, et il me parle de sidekick. Ok, pas de problème. Donc le synopsis, on a dit. Alors, quelques heures avant la fermeture de son VRMMO favori, le joueur dont le pseudo est Momonga arpente le repère de sa puissante guilde. Mais à l'heure prévue de l'arrêt des serveurs, il se retrouve dans l'impossibilité de se déconnecter et coincé dans le jeu, face à des PNJ à l'attitude plutôt déroutante. Momonga décide alors de se mettre à la recherche d'éventuels autres joueurs dans ce monde dont il a tout à découvrir. Parlons de la partie visuelle et audio de Overlord. Jean, je te laisse commencer.
Ouais, d'accord, donc super, direct le mec King Shaming quoi. Super. Et en plus, j'ai jamais porté de talons. De 12 cm, en tout cas. Alors, Overlord, commençons par partie visuelle et audio. Visuellement, Overlord, ça passe, mais parfois les dessins sont un petit peu simples, voire même certains traits peuvent paraître grossiers, donc vous voilà prévenus. Concernant la mise en scène, il y a un épisode vers le début de l'animé, donc il s'agit de l'épisode 3, qui nous présente certains mouvements de caméra assez audacieux pour un animé de ce genre. Il y a de la CGI, donc des images de synthèse qui sont relativement affreuses, Xavier reviendra là-dessus, mais, ironiquement, eh ben, ça permet d'avoir certains mouvements de caméra un petit peu sympas, donc, au final, ça prouve qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec de la CGI pourrie. Ce qui est triste, c'est que ces petites fulgurances au niveau de la mise en scène, au final, eh ben, on les voit seulement sur cet épisode, en fait, sur le tout début de l'animé, et puis après, bah, ça disparaît complètement.
Oui, la 3D Overlord, dans Overlord, effectivement, il y a plus qu'un gros souci, mais avant d'en parler un peu plus en détail, d'abord parlons de la direction artistique d'Overlord, qui reprend les classiques de tout ce qui est médiéval fantastique, avec un accent évidemment sur les créatures maléfiques et semi-humaines, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le héros Momonga est censé être dans une guilde de semi-humains, avec donc surtout des monstres et des créatures censées être maléfiques. La série est essentiellement animée avec des techniques classiques hein, qui viennent de la 2D, mais pour sûrement pour des raisons de production et pour faire gagner du temps, il y a beaucoup de 3D qui sont utilisés, soit sur les grosses batailles avec des humains, mais essentiellement sur les monstres. Et à chaque fois, c'est dégueulasse, je peux pas le dire autrement. L'incrustation est mauvaise parce qu'on voit les raccords de très loin. Le rendu en lui-même est plutôt moche, c'est-à-dire même en dehors de tout ce qui est incrustation, on voit que c'est pas beau, les designs des monstres sont ratés, et des fois c'est même complètement scandaleux. Je parle notamment de l'armée de gobelins qu'on verra dans la saison 3 notamment, qui est, mais je crois que elle est digne des pires jeux vidéo sortis en 2002 par c'est horrible. C'est horrible, je sais pas, j'en perds mes mots. Non, franchement, ouais, la 3D, elle est vraiment rebutante, et heureusement que les autres aspects, sont bien meilleurs, notamment tout ce qui est animation. L'animation 2D en tout cas est plutôt fluide et dans l'ensemble assez correcte. Elle est même bien poussée sur certains combats. Je pense au combat contre Clémentine dans la saison 1 ou tout l'arc des hommes lézards qui est vraiment très très bien chiadé. Voilà, donc sur la musique, elle est plutôt axée sur les chœurs très solennels parce qu'elle rappelle les univers classiques high fantasy. À grand renfort de cuivre pour les airs martiaux, et un truc plus léger avec mandoline et synthé pour tout ce qui est intimiste et comique, parce que oui, il y a des scènes comiques, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. De manière générale, je trouve que la musique est pas ultra marquante, la BO elle est vaste, hein, je crois qu'il y a plus d'une centaine de morceaux, mais pas mal de titres qui sont réutilisés, donc assez oubliable à mon sens. Au niveau des génériques, bon, c'est plutôt du rock assez vénère, du rock avec beaucoup d'autotune dans la voix, à l'exception de celui de la saison 2, que personnellement j'aime beaucoup, avec une excellente mise en scène qui me hype à chaque fois. Mais je crois que Jean est légèrement en désaccord avec mon côté magnanime sur ces génériques.
Ah oui, d'accord. Donc on peut parler de la hauteur de mes talons, mais on peut aussi peut-être parler de la longueur de tes tunnels, hein, Monsieur Magnanime. Alors oui, concernant opening et ending, donc les génériques d'ouverture et de fermeture, pour la première saison, donc l'OP1 et le ED1, je peux pas. Enfin, l'opening, c'est l'autotune est poussée, mais à fond, quoi. C'est insupportable. Et il y a un gros problème de mixage, en tout cas sur Netflix. Donc, je les ai en Blu-ray, mais je les ai aussi pas mal revisionnés via Netflix pour l'aspect pratique. Et bah, tu finis l'animé sur un espèce de petit cliffhanger potentiellement. Le son est pas très très fort. Et puis là, d'un coup, bam, l'opening arrive avec le volume 10 fois plus fort. C'est insupportable. Et l'ending, ben, il est un petit peu moins horrible, mais bah pareil, quand même beaucoup d'autotune, je peux pas, enfin j'ai du mal. Et donc je veux bien que entre les saisons, il y ait des petites variations, mais d'une manière générale, tous les openings et endings de cet animé, j'accroche pas. Je prends la suite du coup sur la partie narration et puis l'aspect énigme de cet animé. Premier aspect, donc comme l'a expliqué Xavier quand il a présenter le synopsis, on a une ambiance de fin de serveur, de fermeture de jeu, en fait, en tout début de l'animé. Et j'ai trouvé que c'était bien retranscrit pour avoir vécu des fermetures de serveur. Le comportement donc des personnages, l'ambiance qui règne, cette espèce de calme, vide, un peu bizarre. Bah, moi, j'ai trouvé ça très bien retranscrit, donc c'est plutôt cool. Ensuite, pour les énigmes, il y a de nombreuses énigmes dans cet animé qui sont là pour vous accrocher. Chose qui, je trouve, est plutôt réussie. Le personnage qui a une espèce de sort auto-calmant qui le rend pépouze quand il est en train de partir en steak. Des PNJ qui sont très évolués, avec qui on peut avoir des discussions élaborées, qui ont plein de réactions, qui ont l'air d'avoir des sentiments, des opinions, etc. Le perso qui, il a beau être dans un jeu, à la base, c'est un humain quand même, et là, il a ni faim ni sommeil, jamais. Et puis, la grande question, est-ce qu'il est dans le monde d'Yggdrasil ou pas ? Qu'en est-il ? Et c'est plutôt réussi, c'est plutôt sympa à suivre, et ça joue beaucoup dans l'aspect miam miam binge-watching de cet animé. Concernant les personnages, rapidement, même si on y reviendra un peu plus tard, plus en détail, dans cet animé, les personnages sont, que l'on suit, hein, ceux de la guilde de ce joueur, sont complètement surpuissant, mais vraiment. Et malgré tout, on arrive à créer de l'enjeu, et ça, c'est plutôt sympa, et c'est assez inédit. C'est pas unique en son genre, mais ça change de la grosse masse des isekai qu'on a connu dans la dernière décennie.
Effectivement, ces intrigues sont vraiment intéressantes, ou comme tu les appelles, des énigmes, et ça permet de suivre finalement... la motivation principale du héros, qui est de retrouver d'autres joueurs, et pour ça, le meilleur moyen qu'il pense avoir à sa disposition, vu que tout ce qui est, on voit dès le début, hein, que tout ce qui est sort de communication ne fonctionne pas, c'est de rendre le nom de sa guilde connu, afin de pouvoir éventuellement être rejoint par d'autres personnes. Il y a d'autres thématiques hors énigmes qu'on va pouvoir observer dans Overlord, notamment toute une réflexion sur l'exercice du pouvoir sur des créatures certes dévouées, mais avec leur propre personnalité et surtout un raisonnement qui des fois va... un raisonnement qui va mettre en défaut le héros auquel il ne va pas s'attendre. Et ça va être assez intéressant. La série aussi joue habilement sur la notion de boussole morale. C'est-à-dire que la guilde est censée être mauvaise, maléfique. D'ailleurs, l'apparence du héros, c'est une apparence vraiment terrifiante, un squelette gigantesque avec des yeux de feu. Donc, tout ce qu'on nous a appris en termes de visualisation, c'est ce gars-là est un méchant, mais c'est lui qu'on suit. D'ailleurs, on va pouvoir l'observer, faire des actes de cruauté, se vautrer dans l'occultisme, être complètement insensible à tout ce qui est macabre, avoir des scènes absolument horribles et même pas bronchées. Et de la même manière, il va être un chef bienveillant, juste et attentionné envers tous ses sujets, même très protecteur. Et il va toujours attendre un motif légitime pour agir, il va être assez prudent. Et voire même se montrer généreux envers certains humains, mais bien qu'il soit beaucoup plus faible que lui. D'ailleurs, dans cette optique-là, la série nous montre beaucoup la puissance de toutes les personnes de Nazarick et de la guilde, il y a quand même un bon moment de la série qui est consacré à tout ce qui est conquête via le soft power. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser la violence ou la menace pour arriver à ses fins. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas souvent, surtout dans des animés de ce type-là. Je pense notamment à tout ce qui est toutes les intrigues autour du village de Carnet, ou plus tard le royaume de Bahamut. Bon, on retrouve aussi un peu ce procédé narratif un peu facile que j'avais déjà noté auparavant, de créer quelques personnages attachants pour avoir une fin brutale, juste pour nous faire chialer. Mais là, c'est pas mal, parce que le but, c'est pas de nous faire chialer, c'est le but, c'est de nous montrer à quel point le héros, il est pas si héros que ça. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc globalement, c'est une série que j'ai dévorée dans un temps que je ne dévorerai pas parce que j'ai pas envie d'être stigmatisé par des personnes qui pourraient m'écouter genre là en face. Hein, tu dis rien, on est d'accord. Voilà, mais par contre, j'ai un reproche à faire, c'est qu'à un moment, la série introduit des personnages potentiellement importants pour l'intrigue, et même on nous montre dans un contexte qui semble vraiment intéressant, en fin de saison 1, et puis pouf, on n'entend plus jamais parler. Donc, dommage. Bon, on espère que ce sera plus résolu dans la saison 4 qui vient d'être annoncée.
Ah ça y est, cool, c'est à moi. Alors du coup, les personnages...
Oui, donc au niveau des personnages, l'Overlord, il est très plaisant à suivre, très humain, aussi entre inquiétude pour ses proches et un côté très froid, voire très utilitariste avec les autres. Il veut se montrer juste, mais il est quand même un impitoyable psychopathe avec ses ennemis. Bref, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la cour de l'Overlord, donc tous les habitants de Nazarick, c'est sympa, c'est très varié. Bon, je trouve qu'il n'y a pas un personnage qui s'en extrait en particulier, mais aucun ne me laisse de marbre, à part peut-être Cocytus, mais je crois que Jean, c'est pas exactement... l'exact contraire, juste pour m'emmerder, pour changer. Au niveau des humains, eh ben, ils sont globalement insignifiants, hein, que ce soit ceux du village de Carnet ou les aventuriers qu'on va rencontrer le long de cette aventure. On n'en a pas grand-chose à faire et je pense que c'est vraiment voulu. Néanmoins, je trouve que le trio Gazef, Brain, Climb fonctionne assez bien. Je pense que Jean en parlera un petit peu mieux que moi. Enfin, il y a les hommes-lézards. Bon, les hommes-lézards, c'est le meilleur arc, avec un vrai changement de point de vue, une construction rapide, prenante et efficace. J'ai déjà dit que c'était bien animé et tout, les hommes-lézards, c'est top. Voilà, maintenant là, tu peux parler.
Non, finalement, sur Cocytus, j'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que tu as dit, parce que c'est vrai que c'est un peu le perso guerrier de base, quoi. Je suis assez d'accord avec toi pour le trio Gazef, Brain et Climb. Juste sur Gazef, je ferai la petite précision que c'est un peu le perso cliché du guerrier juste et intègre, sauf que bah, c'est un humain, donc c'est un pélo dans l'animé, quoi. Mais au final, on s'en fout un peu, parce que bah, c'est un personnage assez secondaire, c'est pas lui qu'on va suivre durant cet animé. Donc venons-en aux choses intéressantes, les personnages qui m'ont paru sympas là, dans toute la clique de Nazarick. Il y a Sébaste tout d'abord, qui est un peu la version Nazarick de Gazef justement, qui est juste et intègre, mais lui il est complètement surpuissant évidemment. Il y a Narberal, qui est parmi mes deux persos préférés, qui est plutôt cool. Elle a une aura assez dure à décrire, mais qui est vraiment sympa. Et accessoirement, bah, c'est une soubrette surpuissante et très, très, très vénère, vraiment. Et puis, bien sûr, Shaltir, évidemment, donc qui est l'autre de mes deux personnages préférés. Elle est cool, c'est une vraie chippie insupportable, et elle est extrêmement puissante, vraiment pour de vrai, on vous jure, elle est pétée. Au fait, Xavier, pour les lézards, je peux le dire ou pas, du coup ?
Non, mais c'est une scène assez rigolote, leur gâche pas la surprise. Je vais plutôt parler de la VF, tiens. La VF, moi, je l'ai trouvée plutôt correcte, même si, Jean est témoin, lors du premier visionnage, on était assez dubitatif, voire on a eu peur, en fait, d'un résultat pas fou, mais non, finalement, ça se tient pas mal. Je trouve que la voix de l'Overlord est bonne, en souverain, maléfique, puissant, je trouve que c'est assez convaincant, mais par contre... Il y a une version qui est censée représenter la voix du joueur quand il se parle à lui-même, qui est assez une voix fluette. Celle-là, je sais pas, j'ai jamais accroché, donc il y a un peu ce côté-là qui m'a un peu dérangé. Dans les autres rôles, dans le rôle de Demiurge, Vincent Ropion est excellent. On peut pas dire autrement, je crois que c'est le meilleur de tout le cast. Sébastien aussi se tient bien, je ne connais plus, je n'ai pas reconnu l'acteur, mais il est très bon.
Psst, psst, c'est la voix de Philippe Catoire. C'est un gros ponte dans le milieu du doublage, et pas que dans l'animation japonaise. C'est aussi la voix de Tywin Lannister dans Game of Thrones, par exemple.
Par contre, les voix féminines, je les trouve un petit peu en retrait, notamment que ce soit les deux elfes, Albedo ou Shaltir. J'ai pas trouvé très convaincante, et pourtant on a des pros dans le cast comme Adeline Chetey ou Clara Soares, Au niveau des rôles secondaires féminins, je mettrais plus en avant Narberal, qui est joué par Bérangère Jean. Bérangère Jean qui faisait déjà la VF de Rémi dans Black Lagoon, donc qui sait faire les personnages badass, ça y a pas de problème, et elle s'en sort très bien. Au niveau des rôles secondaires, c'est assez fluctuant. Les hommes lézards, ça va. Par contre, les humains de manière générale, et notamment les aventuriers qu'on rencontre à droite à gauche, bah c'est pas très consistant. Mais bon, à un moment, il y a Caroline Combe qui pose sa voix sur de superbes personnages, donc oubliez tout ce que j'ai dit auparavant, la VF, elle est goldée.
Alors globalement, on a à peu près le même avis sur la VF. Il y a de bons rôles, notamment j'ai bien aimé Sébastien, Demiurge, comme tu l'as dit. Cocytus aussi, j'ai trouvé que le cast était plutôt sympa, et peut-être même plus intéressant qu'en VO. En termes de rôle féminin, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est quand même moins sympa, moins mis en avant, mais on en a deux qui sortent du lot. Il y a Narberal et Clémentine, qui sont vraiment, vraiment bien. Bon, comme pour Narberal, comme tu l'as dit, hein, on a affaire à une comédienne qui est loin d'être novice en la matière, donc c'est pas surprenant. Clémentine, par contre... il me semble que tu m'as parlé d'une personne qui avait fait essentiellement des rôles secondaires, et malgré tout, j'ai trouvé que la prestation, notamment durant cette petite scène, elle est aux prises avec un adversaire, elle était vraiment, vraiment très, très intéressante, et on n'avait pas du tout l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a pas l'habitude de faire des rôles mis en avant. Tu te rappelles du nom de la comédienne ?
Oui, donc son nom c'est Bérangère Rochet. Et je suis d'accord avec toi, sa prestation est vraiment convaincante. On l'a déjà vu dans pas mal de séries, dans des rôles secondaires, voire additionnels. Et effectivement, ce serait sympa de l'avoir dans des rôles plus conséquents.
Un petit mot maintenant sur les coffrets Blu-ray. Donc naturellement, je les ai en ma possession. Plusieurs choses à dire sur ces coffrets. Tout d'abord, ils étaient assez chers, rapportés au nombre d'épisodes, au temps de visionnage. Ça se place dans la tranche haute, dans le top tier en termes de coûts, avec d'autres animés comme Kill la Kill par exemple. Le premier coffret, donc pour la saison 1, était un combo Blu-ray plus DVD uniquement. Et pour la suite, ils ont édité des coffrets séparés entre Blu-ray d'un côté et DVD de l'autre. Ce qui fait que du coup, le premier coffret sera forcément plus large dans votre bibliothèque si vous les achetez. Heureusement, il n'est pas plus haut. Ils ont eu la bonne idée quand même de rester sur un format standard en termes de hauteur. Bon, c'est un petit détail, hein, mais ça peut faire bizarre dans une collection. Sinon, comme d'habitude, je l'ai dit, je le redis encore, en termes d'édition, le design de la boîte, les dessins des disques, l'intérieur des boîtes, enfin tout... Toujours, hein, ça colle parfaitement au style de la série, c'est très sympa, très riche à ce niveau-là. Au niveau visuel, en termes de qualité vidéo, c'est très correct, et surtout, c'est bien supérieur à ce qui se fait en SVOD, donc les VOD par abonnement. J'ai regardé donc des extraits de l'animé, voire des épisodes entiers durant ce revisionnage sur ADN, Netflix et Prime Video, et tous sont franchement... à peine acceptable, quoi, en termes de qualité vidéo, c'est... T'as beau mettre l'animé en 720, quoi, tu te dis, bah ouais, c'est de la 720 ultra compressée, voire c'est de la 480 propre, quoi. Je comprends pas. Donc voilà, sachez que, encore une fois, un bon exemple d'un animé qui sera bien plus joli en Blu-ray que sur n'importe quel service de streaming.
Pour reparler rapidement des combos Blu-ray DVD, il y a des bonus sympas dessus, comme les courts-métrages sur les Pléiades, qui sont des personnages secondaires de Nazarick. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de contenu. Ils sont effectivement très jolis, ces coffrets, et d'ailleurs, on peut retrouver ces coffrets, notamment celui d'Overlord, sur le site lesamouraielasoubrette.fr, tout attaché, hein, il n'y a pas de tiret. Il y a quasiment toute la collection de gens qui est joliment disposée et mis en photo par son propriétaire. On retrouvera aussi sur le site le making-of de l'épisode 5 et pas mal d'autres contenus bonus, en plus d'évidemment tous les épisodes et tous les trailers de notre podcast Le Samouraï et la Soubrette. C'est ainsi que se termine cet épisode numéro 9. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes et, comme à notre habitude, on vous laisse avec quelques savoureux morceaux de VF. À bientôt.
Ces types que j'ai pris tant de plaisir à buter, c'était tes compagnons en fait. Tu vas pas me dire que ça t'a mis de mauvaise humeur. J'ai tellement ri en massacrant la petite magicienne. Cet imbécile a cru jusqu'au bout que quelqu'un viendrait la sauver. Pardon, c'est moi qui l'ai tuée.
Il n'est pas nécessaire de t'excuser.
Et parle-moi, Josué.
Vous êtes pathétique. Je ne peux pas laisser vivre une vermine comme vous. Je vous laisse agoniser dans vos entrailles.
Une agréable odeur d'insectes grillés parfume l'atmosphère. Je pourrais peut-être en rapporter un bout à N'Thoma.